Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission d'actu quotidienne locale. Il est 18h et vous êtes bien sur Prune 92 FM. C'est Antoine qui vous parle et je suis encore une fois ravi d'être à l'animation de ce soir. Que vous soyez dans votre voiture, au travail ou que vous vous enfiliez des saucissons à l'apéro, eh bien je crois que cette émission est faite pour vous. Nous allons passer une heure ensemble pour discuter, apprendre, partager de la musique et parler photographie. Je vous donne tout de suite le programme de Curiosité d'aujourd'hui. Pour commencer, vous allez découvrir un reportage sur le dernier festival de voyage à vélo à Nantes avec Alexandre. On retrouvera ensuite Morgane et sa chronique cinéma, Le Quatrième Mur. Bonsoir Morgane.
Bonsoir.
En deuxième partie d'émission, vous allez retrouver le grand entretien avec Perrine. Ce soir, elle reçoit Jean-Christophe Richard, coprésident de la Confédération Paysanne en Loire-Atlantique. Salut Perrine.
Salut.
Enfin, nous finirons en beauté cette émission avec la chronique photographique de Suvan. Salut Suvan.
Salut.
Qui se marre.
Oui, il se marre. De très bonne humeur ce soir. Et puis, petite dédicace à celui que vous n'entendez presque jamais, c'est Seb à la Réal. Salut.
Bonsoir.
On démarre sans plus attendre et avec l'arrivée des beaux jours et le besoin de vacances, je crois qu'il est temps d'aller chercher son vélo à la cave ou dans son garage et pourquoi pas partir à l'aventure. Alors pour se motiver, Alexandre s'est rendu il y a quelques semaines au dernier festival de voyage à vélo à Nantes. Bon voyage.
Curiosité reportage.
Je me suis rendu à un festival du voyage à vélo. C'était le samedi 18 mars dernier à la manufacture. Autant dire que je suis revenu avec l'envie farouche de remonter sur mon vélo et de partir à l'aventure. Bon, il n'est pas certain que je parte de chez moi pour aller jusqu'en Afrique du Sud ou en Irak, à l'instar de Laura et JB. Il n'est pas certain non plus que j'entreprenne le tour de la Méditerranée, comme Charles il y a 40 ans, qui nous a régalé avec son superbe récit de voyage. En revanche, la participation à un atelier d'échange pour voyager à moindre coût m'a donné plein de pistes pour partir en maîtrisant mon budget et donc plus longtemps. Le festival était organisé par l'association Cyclo-Camping International. Je me suis entretenu avec Isabelle Lancelot, sa présidente, à qui j'ai d'abord demandé ce que faisait l'association.
Nous sommes une association donc avec 1200 adhérents et nous informons et regroupons tous les voyageurs à vélo.
C'est également une association qui met à disposition des ressources utiles pour voyager et mettre en réseau ses membres.
On a dans notre association une revue qui sort, qui est trimestrielle. On a une édition donc, sur un livre, le manuel du voyage à vélo, qui peut donner des pistes à ceux qui veulent partir. Et il y a plein de choses dans ce manuel, c'est un petit peu une bible du voyage. On a aussi des fiches cyclo-pays. Wikicyclopays que l'on peut consulter. Donc si on a une idée de voyage, on peut aller voir toutes ces fiches. Et puis, comme on est une association où on se regroupe, on a un festival annuel. Souvent, c'est le troisième week-end du mois de janvier à Paris. Et là, tous les voyageurs se retrouvent. Il y a donc des films. Et c'est le lieu vraiment où on se retrouve et où on partage nos expériences, et puis les nouveaux viennent chercher des informations.
Le partage d'expériences était aussi au centre du Festival Nantais. Le plaisir de découvrir des voyages et d'échanger était d'ailleurs palpable. Entre questions de fond sur les motivations pour se lancer, le public a aussi apprécié les petites anecdotes, comme avec JB et Laura, qui ont voulu traverser en Afrique le parc national du Serengeti en Tanzanie.
On pensait qu'on pouvait traverser en vélo, nous, alors qu'il y avait des lions partout. En fait, c'est fermé, on n'a pas pu traverser. On a dû faire un détour de 600 km.
Ah oui.
Mais c'est là que c'était génial, parce qu'on s'est retrouvé vraiment dans un petit village perdu, et c'était une des plus belles parties du village. Mais sinon, il y a quelques parcs nationaux où on peut traverser en vélo. Je pense que c'est ceux où c'est le moins dangereux, où il y a le moins de lions, etc.
L'Afrique, c'est quand même un peu loin pour débuter les voyages à vélo. Isabelle se révèle être de bons conseils écoutons son expérience.
On a commencé par voyager proche de chez nous, le canal de Nantes à Brest, et puis après, bon, on a été chercher un petit peu plus loin en France, et puis après, ben, ça donne envie de pousser un petit peu les frontières, d'aller voir l'Europe, et puis après, ben, on va voir un petit peu plus loin, voilà, sur d'autres continents. Le dernier voyage, c'était en Inde. Autrement, on a été en Amérique latine. On a été aussi donc tout ce qui est Thaïlande, Laos et Cambodge.
Une question me vient alors en tête. Pourquoi voyager en vélo plutôt que via d'autres modes de transport ? Ce n'est pas qu'une question écologique, c'est certain. D'ailleurs, certains récits démarrent leur voyage par un trajet en avion, ce qui plombe littéralement leur bilan carbone. D'autres, conscients de l'impact, privilégient d'autres moyens de transport ou partent tout simplement de chez eux à vélo. Mais bref, revenons à la question de la motivation qui n'est donc pas qu'une question écologique.
Ce qui me motive, moi, pour partir en voyage à vélo, c'est la découverte, découvrir d'autres cultures quand on est à l'étranger, c'est rencontrer du monde, c'est la liberté du voyage et la lenteur du voyage. Je dirais que les quatre mots, c'est ça, quoi. La liberté, la rencontre, la découverte.
C'est décidé. Je ne sais pas pour vous, mais mon prochain voyage sera à vélo. Et s'il durait plusieurs mois, combien de temps mettrais-je à me préparer ? Comment devrais-je m'y prendre ? Là encore, l'expérience d'Isabelle est inspirante.
On commence à s'intéresser au pays. On va chercher justement des informations sur les fiches Wikicyclopays pour voir les parcours de certains voyageurs. Souvent, c'est 6 mois avant. Et puis, de fil en aiguille, on va chercher les informations. On pioche des informations à droite et à gauche. Et il n'y a pas de grosse préparation. S'il y a de la recherche, s'il y a des visas, s'il y a des billets d'avion, ça c'est la grosse recherche. Mais après, quand on est dans le pays, on se laisse un peu porter. C'est-à-dire que l'on sait les gros spots où on a envie d'aller. Et après la route, on ne sait pas. On se laisse un peu porter suivant les rencontres que l'on va avoir quand on part. Et voilà, on se laisse porter, c'est l'objectif du voyage.
Mais suis-je le seul à m'enthousiasmer pour ce mode de transport ? Sommes-nous de plus en plus nombreux ? Bien sûr, j'ai, pour ma part, aiguisé ma conscience écologique depuis plusieurs années. Je cherche de la cohérence entre mon style de vie et un mode de vie pérenne. Il est donc naturel que je me projette. Mais qu'en pense la présidente de Cyclocamping International ? Observe-t-elle un engouement ?
Pendant le Covid, je pense que les gens ont repris le vélo pour se déplacer et ont redécouvert le vélo. Après, il y a eu une continuité et ils ont trouvé du plaisir et puis surtout de se dire on peut partir de chez soi en vélo, quoi. Cette liberté, je crois que les gens en avaient énormément besoin. Ils ont compris qu'il n'y avait pas besoin d'aller très très loin pour trouver cette liberté.
Je laisse le mot de la fin à Isabelle pour nous donner quelques conseils pour se lancer.
Quel conseil ? Ben, ma foi, il faut oser. Le plus dur, c'est de se dire, je sais pas comment partir, donc il faut se rapprocher souvent d'un réseau, ne pas hésiter à aller rencontrer des voyageurs à vélo. Et c'est relativement facile une fois que voilà, on fait de belles rencontres. Donc si vous voyez des cyclo-voyageurs qui passent, ben, allez les rencontrer. Et souvent, ils vous transmettront leur passion, quoi.
Et voilà, après 681 jours de voyage et 31 780 km, nous sommes arrivés à Ushuaia, au bout du monde.
Nous sommes deux frangins, Jérémy et Vincent, et avons pris le départ début 2017 pour un voyage à vélo du Canada jusqu'en Argentine. Pour vous donner une idée, c'est comme si nous avions traversé 31 fois la France.
C'est fini pour cet épisode des Écolonautes. Si vous nous cherchez, on est parti réviser nos vélos. Retrouvez tous les épisodes des Écolonautes sur www.prune.net. On vous dit à bientôt.
Eh ben, vous l'avez bien compris, si vous aussi vous voulez faire de belles rencontres, eh ben, grimpez sur votre vélo. On reste dans le thème du voyage avec la musique de Mungo's Ifer en feat avec Poupa Jim et leur titre Bike Rider. Il est 18h13 sur Prune. That one you're dedicated to all the bicycle riders, seen. Bicycle rider, bicycle rider. Bike rider, me other bike rider. Bike rider, me other bike rider. Trust me, riding a bike is better. Bike rider, me other bike rider. Everybody should ride bicycle. Bicycle, bike for me, bike for you, bike for everyone. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Brr, bon, yes, me on the bike rider. Bop, bike rider. Brr, bon, yes, me on the bike rider. Bop, bike rider. Bike rider, me on the bike rider. Bike rider, me on the bike rider. Me no fear, no police officer. Bike rider, me on the bike rider. Bicycle rider, bicycle rider, bicycle rider. Who are here? Exercise me, exercise, energize me, energize. Traffic jam me, improvise. Snaking in and out in the rise. I don't need no petrol. Everything is under control. I don't need no gasoline. With my bicycle machine. Me at the bike rider, bike rider. Me at the bike rider. Me no fear no police officer. Bike rider. Me at the bike rider. Me at the bicycle rider. Me at the bicycle rider. Me at the midnight rider. Me at the midnight rider. Bike rider. Me at the bike rider. Everybody should ride bicycle. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Bike for me, bike for you, bike for everyone. With my bike, me no fear no traffic jams. Me no way he hit any jumps. Me no way he hit any boss. Me no make no fuss. Me have no problem to park my bike. C'était donc Bike Rider de Mungo's Hi-Fi et Poupa Jim. On enchaîne tout de suite avec Morgane et sa chronique cinéma Le Quatrième Mur. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Patient de Grand Corps Malade, sorti en 2017. Je l'ai vu en avant-première et j'ai rencontré Grand Corps Malade.
Bravo.
À toi.
Bienvenue dans Quatrième Mur, votre chronique ciné du mercredi soir.
Alors moi déjà j'ai une question, est-ce que tu es allé voir Je verrai toujours vos visages comme tu me l'as promis et comme tu l'as promis devant tous nos auditeurs et auditrices.
Je devais y aller dimanche dernier et je suis pas allé.
C'est quoi ton excuse?
Parce que la pote avec qui je devais y aller n'était pas là.
Et toi, tu peux pas y aller tout seul comme un grand?
Bah non, je l'avais promis.
Ah, bon.
Faut accuser le coup du lapin déjà. C'est...
non, mais. Bon, je t'en veux, donc j'espère que la semaine prochaine, ce sera vu.
Promis.
Allez. Donc ce soir, on va parler du film Patient, sorti en 2017, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Il est d'ailleurs tiré du livre autobiographique de l'artiste. Alors, si vous voulez le voir ou le revoir, sachez qu'il est dispo sur Netflix, donc c'est parfait. Il est facile d'accès. Comme je vous l'ai dit, l'histoire est celle de Grand Corps Malade qui a passé un an de sa vie en centre de rééducation. Vous devez connaître ses chansons et son slam. Il n'y a pas d'acteurs connus dans ce film, ni de gros budget. Patient est parti de pas grand-chose finalement et a réussi à se faire une petite place avec quand même 4 nominations au César. Benjamin, ou Ben donc, est un grand sportif qui promet de réussir dans le monde du basketball. Mais du jour au lendemain, il se retrouve dans un centre de rééducation suite à un accident. Il devient alors tétraplégique partiel. Il doit alors repartir de zéro, réapprendre à marcher, à utiliser ses mains, à manger. Bref, réapprendre à mener sa vie normalement dans un corps qu'il ne connaît plus. Le titre « patient » a en fait un double sens. Patient à la fois pour le terme médical, donc le patient qu'on est dans un hôpital, mais aussi patient pour décrire le temps de la guérison, la force et le courage que ces personnes doivent avoir pour guérir. Oui, vous l'aurez compris, c'est encore un film sur la résilience. J'aime bien, moi, ce genre de film, donc je vous en parle encore. Mais je vous jure qu'il vaut le coup. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Hein. Mais c'est un film qui donne de l'espoir, finalement. On ne finit pas le film en larmes, mais avec le sourire aux lèvres. Alors, je ne vais pas non plus dire qu'on fait la danse de la joie, parce que c'est quand même un sujet hyper lourd, mais Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade, a voulu donner un ton hyper léger à son film. Du coup, on rit plus qu'on ne pleure. Enfin, normalement. Benjamin arrive donc au centre de rééducation. Il est motivé, enthousiaste, joyeux, blagueur. Et ce n'est pas cet accident, comme il dit, entre guillemets, bête, qui va lui faire perdre sa motivation. Il commence alors à lier des amitiés avec les patients, mais aussi avec les soignants, notamment son kiné. Benjamin ne perd jamais courage, malgré des hauts et des bas. Il veut réapprendre à vivre sa vie normalement. Même s'il ne savait pas s'il allait remarcher, il a tout fait pour. Il aurait pu perdre espoir après l'accident quand il n'avait plus l'usage de ses jambes, mais c'est son amour pour sa vie d'avant, sa vie de basketteur et de jeune étudiant en STAPS, qui l'ont poussé à continuer. Alors, bien évidemment, là, je vous parle du coup du cas en fait le plus heureux, parce que la réalité qui nous est aussi montrée dans le film n'est pas si joyeuse que ça. Beaucoup n'ont plus la force de continuer et au mieux abandonnent, au pire tentent de se suicider. Mais encore une fois, on ne tombe pas dans le pathos. Les points d'humour sont toujours là pour redonner une dimension beaucoup plus légère au film. Finalement, toutes les personnes handicapées, qu'elles soient nées avec ou qu'elles aient eu un accident, sont humaines. Et c'est ça le but du film, humaniser ce que la société définit d'abord par leur handicap. L'un des personnages, Farid, le décrit d'ailleurs très bien. Je cite... T'as des handicapés beauf, t'as des handicapés Kaira, t'as des handicapés qui ont de l'humour. Fin de citation. Bref, en fait, ils sont humains, comme tout le monde. Et leur handicap n'est pas un trait de leur personnalité. Alors arrêtons de faire les débiles à juger les personnes parce qu'ils ont vécu et apprenons à se connaître avant d'avoir des préjugés.
Merci Morgane, tu m'as rappelé des chouettes souvenirs de ce film. En vrai, peut-être, que je vais le revoir en pensant à ta chronique.
Mais moi, je ne crois plus, en fait, à ce que tu me dis. Je crois que tu es un menteur.
Mais non, c'est pas vrai. Suvan, c'est quoi ton dernier film qui t'a marqué, toi?
Pré au dépourvu, là.
Ah oui, pré au dépourvu, là. Je sais plus, ça remonte, là. Ah si, non, c'est La famille Asada. Film japonais sur un photographe japonais.
Ok.
Et ils se baladent, ils font des photos, ils se mettent en scène et tout. Et c'est hyper drôle et hyper mouvant, hyper touchant aussi.
C'est disponible sur une plateforme
Moi, je l'ai vu en salle en février, je crois. Donc,
Ah, mais oui. Maintenant que tu le mentionnes, j'ai vu passer ça vite fait.
Du coup, ça doit être, j'imagine, ça doit être trouvable sur Internet. Ouais.
Bon, okay. Bah voilà.
Bois top.
Fin de la parenthèse cinéma. On passe maintenant à la pause cadeau. C'est avec Lola et c'est tout de suite sur Prune. Il est 18h19.
La pause cadeau.
Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des vinyles pour l'album I'm Chimino de Chimino. Tente de gagner l'un d'eux en nous envoyant un message sur Instagram de Prune et on retourne doucement pour la suite de l'émission avec le morceau Candy Lanx de Chimino. C'est tout de suite sur Prune.
Mmh.
venez d'écouter Candy Lengths et n'oubliez pas de participer pour gagner les vinyles en envoyant un message sur le compte Insta de Prune. C'est déjà le temps du grand entretien. Ce soir, Perrine reçoit Jean-Christophe Richard. Bonsoir.
Bonsoir.
Co-président de la Confédération Paysanne en Loire-Atlantique, également producteur de lait bio à Couffé. Je vous laisse la parole. Vous êtes sur Prune. Il est 18h25.
Curiosité. L'entretien.
Où en est notre histoire paysanne en France en 2023? Ce soir, c'est de la conf dont nous allons parler. La conf, vous la connaissez, ce sont les beaux tracteurs qui défilent aux côtés des autres citoyens et citoyennes, à pied ou à vélo, en manifestation depuis trois mois. La conf, c'est la Confédération paysanne, née en 1987, de la fusion de deux syndicats, eux-mêmes créés au début des années 80 quand ils sont entrés en dissidence et ont fait scission avec la Fédération nationale de leur fédération départementale. Je vous ai perdu ? Mais non, vous allez vite comprendre. La Fédération nationale de laquelle ils ont fait scission il y a plus de 40 ans, c'est la FNSEA. Ça y est, tout c'est clair ? C'est un mot essentiel qui a favorisé la fusion de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans et la Fédération nationale des syndicats paysans. C'est le mot « paysan ». Car, à la différence du cultivateur, éleveur ou agriculteur qui désigne une profession, paysan désigne une condition, avec des connotations parfois dépréciatives. Pour nous parler de la conf et du monde paysan, nous accueillons ce soir Jean-Christophe Richard. Bonsoir, rebonsoir et bienvenue dans les studios de Prune.
Merci.
Jean-Christophe Richard, vous êtes avec Marie Savoie, co-président de la Confédération paysanne de Loire-Atlantique et nous avons de nombreuses thématiques à aborder ce soir.
Oui, c'est cela.
Déjà, pour donner une idée à nos auditrices et auditeurs de celles et ceux qui représentent la Confédération paysanne à l'échelle départementale, pouvez-vous me décrire votre parcours et votre métier et peut-être également celui de Marie Savoie, co-présidente à vos côtés, et le mandat pour lequel vous êtes élue?
Alors, mon parcours, je suis paysan depuis 15 ans, donc à Couffé, et co-président depuis 3 ans, parce que c'est des mandats de 3 ans, renouvelables deux fois. Donc avec Marie, on y est tous les deux depuis 3 ans. Et Marie va faire une petite coupure, parce qu'elle elle attend son cinquième enfant, et donc elle reprendra après. Ah ben, et moi, je cours derrière Marie. Et donc... voilà comment ça fonctionne. Puis derrière, on a un secrétariat avec plusieurs personnes qui pour répartir les tâches de représentation, de travailler sur les sujets différents, de tous les sujets qui concernent l'agriculture paysanne et nos luttes. Voilà.
Alors, vous avez dit que vous étiez paysan, vous êtes éleveur laitier bio.
Voilà.
À Couffé.
Voilà.
Et Marie, elle, est éleveuse et transformatrice de lait de vache à Jouy-sur-Erdre.
Ouais, alors maintenant, c'est Derval.
Parce que Derval.
Elle a quitté sa commune natale pour reprendre une ferme à Derval en production laitière. Donc, comme moi, nous sommes en filière longue, c'est-à-dire qu'on produit sur la ferme et tous les trois jours, on a un camion qui vient chercher notre lait, qui emmène ça dans une usine pour transformer en yaourt, en beurre, en lait UHT, etc. Et vendu en grande surface avec différentes marques, soit distributeurs ou bio.
Alors, vous êtes tous les deux coprésidents dans l'élevage de vaches laitières, mais pour que l'on comprenne aussi la diversité des métiers représentés par la Confédération paysanne, dans quelle filière agricole travaillent les autres adhérents et adhérentes?
Alors, principalement dans la Loire-Atlantique, c'est vrai que c'est la filière laitière, mais on a donc des éleveurs de bovins, volailles, des maraîchers, la vigne, voilà, tout est représenté.
J'ai vu qu'il y avait même un paludier.
Oui, les paludiers, non, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Ils sont 60, donc à Guérande, qui ont leur propre syndicat, mais reliés aussi à la Confédération paysanne. Voilà, donc on présente tous des éleveurs de porcs en élevage porc bio, par exemple. Voilà.
Alors, on l'aura compris, vous n'êtes pas sur la même ligne que la FNSEA, syndicat agricole encore majoritaire et très influent, issu du plan Marshall, qui revendique une agriculture à tendance productiviste, tournée vers l'exportation et les économies d'échelle, qui demande la suppression du principe de précaution et a œuvré, entre autres, pour la réautorisation du glyphosate jusqu'à fin 2023. Une certaine agriculture semble être plus largement entendue par l'État. Pouvez-vous nous dépeindre brièvement le paysage des différents types d'agriculture pratiquées en France?
Si on parle du plan Marshall, effectivement, ça a été une agriculture pour réduire le nombre de paysans dans les campagnes et puis les mettre dans l'industrie et donc produire une alimentation le moins cher possible, le plus possible, avec le moins de paysans possible. Voilà. Et donc, dans une.
Et des surfaces voilà, bah, cultivables très grandes.
Bah, voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve avec des exploitations qui peuvent faire jusqu'à 1500 hectares en Loire-Atlantique. On commence à le voir. Voilà,
donc, avec ça, c'est ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle.
Oui, c'est l'agriculture industrielle qui a but de produire une nourriture le moins chère possible, en fait. Et donc, nous, on s'inscrit complètement à l'inverse. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est un maximum de paysans et de paysannes sur le territoire, le plus possible, avec la possibilité de mieux vivre de son métier, des fermes à taille humaine, vraiment, et puis qu'on puisse en vivre correctement et dans le respect de notre milieu. C'est ça, d'être paysan. On est dans un pays et donc on essaye de le protéger, de le garder le plus possible, parce que c'est les ressources naturelles, on va en parler tout à l'heure, qui sont là, c'est l'eau, c'est le sol, et tout ça. Et ça, il faut le protéger, et c'est ça qui nous fait vivre, nous, paysans.
Avec les dimensions sociales, agronomiques, environnementales dont voilà. Vous parlez, et deux valeurs principales, si j'ai bien compris, qui sont la solidarité voilà. Et le partage.
Exactement.
Alors, au sein de la Confédération paysanne, dont la ligne est radicalement à l'opposé de celle de la FNSEA, on l'aura compris, il y a deux chantiers principaux que j'aimerais aborder ici avec vous. Le premier, c'est un plan d'urgence pour soutenir les agriculteurs et agricultrices bio. Et le deuxième, le plan eau et son pilotage. Commençons par le moins polémique, le bio. Pour une agriculture durable et saine, à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les sols. Pourquoi l'agriculture biologique, qui pourtant va dans le sens de l'histoire, est-elle en crise ?
Alors moi, je suis paysan dans l'agriculture biologique parce que j'ai démarré à 30 ans, je me suis installé à 30 ans. Et avant, je vendais des produits chimiques. Je vendais des engrais, des produits phytosanitaires. Et donc à 30 ans, j'ai eu un lymphome lié aux produits chimiques. Donc ça m'a.
Le lymphome, c'est donc un cancer du système lymphatique.
Voilà. Et donc ça a failli me coûter la vie. Et donc ce coup de massue sur la tête m'a réveillé. Et donc c'est pour ça que j'ai pris cette direction. Et donc on est beaucoup avoir des convictions profondes pour l'agriculture biologique. Un, pour la santé des agriculteurs, parce que ce sont les plus touchés par ce type de cancer. Deux, pour la qualité de l'eau, des sols, hein, de lutter contre justement la pollution chimique par les produits phytosanitaires, par les engrais. Et trois, d'être autonome et de pouvoir avoir une agriculture qui ne dépend pas de ces produits. Et donc de pouvoir être dans un cercle vertueux avec l'élevage et les cultures et pouvoir produire plus sainement notre alimentation, quoi, en fait.
Alors, si toutes les raisons sont bonnes pour consommer bio, pourquoi est-elle en crise en ce moment,
Alors là, si vous n'avez pas échappé, qu'on est dans l'inflation générale.
Tout à l'heure, on aurait moins de pouvoir d'achat.
Oui, c'est ça. Okay. Et comme l'abbé, depuis le début, est toujours un peu plus cher, parce que c'est des filières qui se mettaient en place, il y a eu des difficultés pour. Fallait investir pour mettre des magasins. Donc, c'était plutôt, moi je pense on est en plein vol, on se retrouve bloqué sur cette problématique, et donc dans la tête des consommateurs, effectivement, c'est plus cher, et donc les consommateurs là ils freinent leurs achats en agriculture, en aliments bio. On a moins 5% en général sur l'alimentation, globalement quand même, parce que les gens ils se mettent à réduire leurs achats alimentaires, et puis moins 7% au niveau de l'agriculture biologique. Et dans les premières enquêtes, là, on comprend que les gens, ils voient AB et ils ne regardent pas plus loin. Non, c'est plus cher.
Ils disent que c'est trop cher.
Voilà. Alors, et donc là, en ce moment, c'est en train de s'équilibrer parce que le conventionnel, le bio, le conventionnel arrive au niveau du prix du bio, malheureusement. Et donc, c'est en train de s'équilibrer. Alors moi, j'invite les gens à regarder dans les grandes surfaces, à regarder dans les magasins spécialisés bio, à aller chez les producteurs. Vraiment, ceux qui sont en vente directe, en production directe, vous allez voir, il y a des prix vraiment intéressants aujourd'hui. Parce que, alors surtout en direct, il y a moins d'inflation.
Allez-y à vélo, évidemment.
Oui, voilà. Et justement, chez nos producteurs, les aliments, ils ne viennent pas d'Espagne, ils ne viennent pas de... Et où le prix du carbon, le transport, plombe toute notre alimentation. Voilà. Et
donc, alors, faut relocaliser, il y avait un problème de la PAC aussi. La PAC, visiblement, a fait disparaître son aide au maintien.
Voilà. Alors, donc, au début, on nous a lancé pour aider les fermes à se reconvertir au bio, parce que ça ne se fait pas comme ça. Il faut
des investissements.
5 années minimum. Et puis, il y a des filières comme le porc, comme la volaille, où il faut plus de place. Et donc, ça coûte plus cher en bâtiment. Par exemple, pour le porc, ils leur font des courettes pour sortir. Et ça coûte très cher. Donc, il y a eu ces aides-là pour aider à installer ces filières-là. Et puis, la PAC, il y a toujours la pression de l'autre syndicat pour dire bah non mais ça c'est la bio, ça sert à rien, c'est voilà. Et donc du coup ils tirent, bah, c'est une question de budget, d'équilibre de budget, et puis et là la nouvelle PAC, on se retrouve sans avec moins d'aide pour la bio.
Alors il me semblait qu'il y avait une enveloppe d'urgence de la part de l'État qui était de 10 millions d'euros, c'est énorme.
Énorme pour 60 000 producteurs, donc on a vous divisé, ça fait 166 euros
par ferme. Alors que si j'ai bien compris, vous auriez besoin plutôt de 15 000 euros par ferme.
Oui voilà, alors après, suivant plus ou moins, suivant les filières. Il y a vraiment des filières qui sont problématiques. C'est la filière du porc, la volaille, tout ce qui est chèvre aussi, c'est compliqué. Et donc, la filière laitière, ça dépend de nos acheteurs de produits, de nos transformateurs, ça dépend. Et donc, on n'est pas tous à la même... Mais donc, ce qu'on veut, nous, c'est justement flécher cette aide vers des filières qui sont plus...
plus en demande.
En demande, et puis surtout que ça s'effondre pas, parce que tous nos efforts depuis 20 ans, 30 ans là, ne tombent pas d'un coup quoi, en fait.
Et puis on peut aussi rappeler à nos auditrices et auditeurs que pour l'élevage porcin conventionnel, il y a une enveloppe de 270 millions d'euros en 2022 qui a été débloquée.
Voilà.
Donc 10 millions par rapport à 270, je vous laisse faire le calcul. Et puis il y a eu une prise en charge totale des pertes pour les betteraviers aussi.
Avant qu'ils aient semé, les néonicotinoïdes.
Avant même qu'ils aient perdu quoi que ce soit.
Ah oui, voilà, complètement.
Donc on va devoir
La bio, c'est 18 milliards au niveau de l'alimentaire, et le porc, c'est 2 milliards. Donc voilà, on n'est plus du tout...
Oui, donc il y a des choses qui sont dites, mais dans les faits et dans les actions, on n'est pas encore au niveau. Malheureusement, c'est déjà le milieu de notre entretien. Je vous laisse apprécier notre pause musicale avec l'artiste Walter Asral et son titre en lien avec notre sujet, puisque ça s'appelle « La Terre ». Avant de retrouver notre invité du jour de la Confédération Paysanne et avec lequel nous aborderons le sujet épineux de l'eau. À tout de suite. Vous venez d'écouter La Terre de l'artiste Walter Astral et nous revenons à la deuxième partie de notre entretien en compagnie de Jean-Christophe Richard, coprésident de la Confédération paysanne de Loire-Atlantique. Nous avons abordé avant notre pause musicale le bio. Parlons à présent de l'eau. Sujet majeur du moment puisqu'il a été récemment l'objet de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Cette violence a pu démontrer à quel point le gouvernement semble attaché à sa solution miracle, que seraient les méga-bassines, non pas pour résoudre le problème de sécheresse en été dû au réchauffement climatique, mais plutôt pour préserver certains agriculteurs du manque d'eau. Pourquoi le plan eau d'Emmanuel Macron, constitué de 53 mesures de sobriété destinées à améliorer la gestion de l'eau, est-il, selon vous, à contre-courant des urgences ? Des urgences.
Alors, déjà... Pour moi, il faut repréciser où l'on en est au niveau de l'eau. Donc, l'eau n'est plus une ressource illimitée. On est rentré dans une ère où on consomme de l'eau de plus en plus, où climatiquement, elle s'évapore de plus en plus, où on a accéléré le cycle de l'eau qu'on a tous appris à l'école primaire. Donc, nuages, montagnes, vallées, tout ça, et puis fleuves, rivières, parce qu'on a arraché les haies, on a arraché les arbres, on a drainé. Donc, l'eau, elle fout le camp, vitesse grand V. Et on a tendance à la gaspiller aussi. Il y a des fuites, il y a des pertes, et on la gaspille. Et du coup, on se retrouve là dans un moment où il va falloir tous s'arrêter. Et arrêter de trouver des solutions comme les bassines qui sont... c'est pas la solution. Et ça va être, la solution, c'est d'être ensemble, tous ensemble, de se rassembler et puis de réfléchir à ce qu'on va faire de cette eau et comment on va, la retenir, l'empêcher de s'évaporer, l'empêcher de... Ça, c'est la première chose. Comment, deux, on va moins la gaspiller. Et trois, qu'est-ce qu'on va faire avec cette eau ? Est-ce qu'on va continuer, donc pour l'agriculture par exemple, à irriguer des cultures qui sont exportées ? Est-ce qu'on va continuer à arroser un golf, puisqu'on en parlait tout à l'heure, par exemple ?
Hors antenne, je précise.
Et donc, voilà, et c'est vraiment des vrais sujets hyper importants, parce que la première chose qu'il va nous falloir préserver, c'est l'eau potable, c'est notre eau au robinet, et pas se retrouver dans des situations comme il va se passer en Catalogne depuis le 1er mars. Là, ils sont en restriction d'urgence au niveau de l'eau, avec les robinets fermés à certaines heures. Et donc, c'est ça qui est urgent de réfléchir tous ensemble.
Donc, les questions, c'est qu'est-ce qu'on irrigue et pour quel modèle agricole et alimentaire ?
Voilà. Mais aussi, dans la société, parce que l'eau... je ne sais pas si vous savez, mais par habitant, en France, on consomme entre 5000 et 8000 litres d'eau par habitant. Parce que vous avez votre eau de
par
robinet.
An.
Oui, non, oui, mais par jour. Par jour. Par jour. Oui, mais effectivement. Parce que toute l'eau qui tombe, elle sert à l'agriculture, elle sert à l'industrie. Par exemple, pour construire une voiture, alors je n'ai pas le nombre exact de litres d'eau, mais il faut de l'eau pour construire une voiture. L'agroalimentaire utilise de l'eau pour laver partout en permanence. Tout ce qui est fromagerie et laiterie, c'est énorme, la consommation d'eau. Il y a le nucléaire, il y a tout ça. Et donc, ramener à la personne par jour, c'est entre 5 et 8 000 litres d'eau, c'est énorme. Et donc, c'est l'eau, ça rentre dans les trois quarts de notre économie. Alors, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'écologie. Ils ont peur que l'écologie prenne le pas sur l'économie. Alors, OK, donc on parle de l'eau. C'est une ressource naturelle qui rentre dans l'économie. Sauf que si on n'a pas d'eau, l'économie, si trois quarts de l'économie, c'est l'eau, comme le sable, par exemple, comme le pétrole, quand il n'y en a plus, on fait quoi ? Et voilà, c'est tout. Et donc, si on le prend par le côté économie, il va falloir vraiment qu'on se mette tous autour de la table et puis de se dire comment on va l'utiliser. Et nous, à la Conf, nous, au niveau agricole, on veut mettre en avant la culture de l'eau. Donc, je vous disais, l'accélération du cycle, c'est la retenir le plus possible. Donc,
Replanter des arbres.
Replanter des arbres.
Donc, le contraire du plan Marshall qui lui a complètement démontré.
Ouais. Et puis, garder de l'élevage. Garder des vaches qui mangent de l'herbe sur des prairies. Parce que des prairies, justement, ça filtre l'eau, ça retient l'eau. Et l'eau prend son temps et puis rentre dans les sols. Et l'eau est stockée dans les nappes. C'est ça qu'il faut qu'on cherche le plus possible. Et dans les nappes, elle est bien au frais, bien filtrée, bien à l'abri. Et là, après, on peut gérer ce qu'on veut en faire et donc la pomper comme on fait pour l'eau potable, pour voilà, parce qu'on a plein de nappes en Loire-Atlantique, par exemple.
Et puis, il faut peut-être un modèle agricole qui relocalise l'alimentation, produit une alimentation de qualité.
Et voilà, donc
remettre en question un petit peu tous ces modes de.
Donc, au niveau des cultures, ça, c'est notre deuxième revendication, c'est d'utiliser l'eau et puis pour faire des, par exemple, du maraîchage qui va être vendu localement. Là, on est à côté de Talensac, là, donc des maraîchers qui viennent vendre en ville leurs légumes et donc rester très local au niveau de l'eau. La limiter par ferme, sans doute, certainement aussi. On aura des choix à faire comme ça, urgents.
Alors, vous parliez d'un plan de pilotage qui mériterait d'être plus transparent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et qu'est-ce que vous formulez au sein de la Confédération paysanne ?
Dans le plan de Macron, il y a des choses qui étaient intéressantes parce que maximiser l'outil de stockage qui est le sol, ça, nous on a dit oui, c'est une bonne idée, ça c'est une revendication.
Ça tombe bien, on est d'accord, mais pourquoi on ne le fait pas ?
Chaque territoire doit se poser ouvertement la question de savoir si la filière d'aujourd'hui est adaptée au climat de demain. Donc là, on est en plein dedans. Est-ce qu'on continue à faire du maïs dans le sud, là où il n'y a pas d'eau ? De nouveaux ouvrages dans les territoires où il faut en raison des particularités, donc il faut je m'embrouille là. Il s'agit pas de privatiser l'eau ou permettre à certains de se l'accaparer. La règle, c'est le partage entre les différents utilisateurs.
Ça, c'est dans le plan eau de Macron. Ça, c'est vrai.
Ouais, non, c'est écrit ce truc-là.
Mais donc c'est quoi la concordance avec les méga bassines?
Il y a un problème. Mais il dit ça lui, donc on est d'accord.
Donc il y a vraiment un décalage entre le discours et
complètement. L'action. Et voilà, comme beaucoup de plans. Donc c'est le deuxième plan parce qu'il y a le plan. Il y a eu un plan en 2019 sur la ressource en eau qui était beaucoup plus exigeant que ça déjà, qui était à moins 25%. Et là, donc, on est à moins 10, sauf l'agriculture.
Donc il doit y avoir. C'est de réduire de 10% notre consommation.
Tout le monde, mais sauf l'agriculture. Mais l'agriculture, il faudra qu'ils s'y mettent parce que c'est 60% de la consommation de l'eau en France. Donc pas le choix. Voilà. Et puis continuer.
Et pour ça, il faut réfléchir à quelle agriculture.
Et puis si on réfléchit pas tous ensemble, on peut se retrouver dans le mur comme ça se passe dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui. Quand il n'y a plus d'eau,
Vous parlez d'une région en particulier. Selon l'INSEE en 2018, la région Pays de la Loire est, avec la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est et la Bretagne, une des régions qui contribuent le plus à la production agricole. Quelle est la situation sur les ressources en eau en Loire-Atlantique ?
Alors, mi-février, on sortait d'un hiver plutôt sec, pas vraiment pluvieux. Donc là, on commençait à s'inquiéter puisque les nappes n'étaient pas totalement remplies. Au niveau des sols, donc il y a la sécheresse des sols, là, c'est le premier stade de la sécheresse. On était aussi sur des sols très secs, 20 mm au mois de février, ça n'était jamais vu, quoi. Et du coup, fin février, mars, début mars, l'eau est revenue et depuis, on a eu 150 mm. Donc là,
qui est plus dans la moyenne ?
Ah oui, et là on est bien. Du coup, on est bien. Après, par expérience, au niveau des nappes, ça va aller, ça va bien se passer. Après, par expérience, la nouveauté, c'est les sécheresses éclairs qui arrivent là souvent.
De
courte durée, épisodes. Très forte, avec des vents d'est, de la chaleur. Et donc, en quelques semaines, on peut se retrouver avec des sols très secs. Et nous, en tant que paysans, c'est ça qui nous inquiète le plus maintenant, à partir de mai, juin, juillet, août, comme ça s'est passé en 2022, comme ça s'est passé en 2019, par exemple, ou 2020. Donc, on a plus ça va, plus ça arrive.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous, la Confédération paysanne Loire-Atlantique, qui fait partie des Pays de la Loire, vous n'avez pas, vous n'êtes pas entendu ? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas entendu au même titre que d'autres ?
On est juste minoritaire, On a quelques sièges à la Chambre d'agriculture, on a quelques sièges à droite et à gauche, à la région, Pays de la Loire, département, mais.
Mais ça veut dire que tous les syndicats agricoles n'ont pas le même son de cloche.
Non, ça c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, c'est une question de représentativité. Alors nous, on y tient. Nous, la Conf 44, on tient à cette représentativité. Il y a bientôt les élections chambres dans un an.
Donc des chambres d'agriculture.
De chambres d'agriculture. Et si on gagne la chambre, on peut après siéger beaucoup plus dans d'autres instances. Et c'est notre objectif. Dans un an, on va gagner la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Et puis
on va pouvoir avancer.
Pavé dans la mare pour avancer.
Visiblement, il y en a qui sont plus puissants que vous, qu'on pourrait peut-être même appeler des lobbies. Quelles sont vos relations avec la FNSEA, qui est donc la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, dont le nouveau patron Arnaud Rousseau est un céréalier, dans la betterave, à la tête du groupe agro-industriel Avril, qui a pugé le Sieur, et aussi maire d'un village de Seine-et-Marne. C'est quoi vos relations avec eux?
Ah bah avec lui, j'en ai pas.
Avec lui, pas personnellement, mais non, avec la FNSEA en général.
J'ai des voisins donc agriculteurs, et donc en général, on parle un peu de politique dans les échanges de travaux et tout ça. Mais bon, bah ça se passe toujours bien. Après, où c'est plus compliqué, c'est dans les instances comme à la Chambre d'agriculture, où donc là, ça frite hein, forcément, parce que bah oui, on est souvent carrément à l'opposé, quoi. N'empêche que bah il faut être là, faut être présent et il faut se bagarrer pour nos idées, voilà. Et puis surtout pour notre environnement, c'est surtout ça.
C'est ça, on devrait tous se sentir concernés.
Ah oui, c'est vrai, oui, on n'a pas le choix là, vraiment. Là, il démarre un mouvement social d'ampleur où les gens, je pense que ça y est, ils ont compris que les dérèglements climatiques, fallait se battre pour ça, parce qu'en face, on a encore des idiots, des utopistes là, qui pensent qu'on va continuer à faire de l'économie sans soucier des ressources naturelles.
Mais des gens qui pensent que ça ne les concerne pas.
Ah, pire, non, je pense que ouais, l'environnement, c'est, l'écologie, c'est un groupuscule d'ultra-gauche.
Quand ils ouvriront leur robinet et qu'il n'y aura plus d'eau,
Mais voilà, alors,
ce sera trop tard.
Juste un petit truc, août 2019, ça a failli arriver à Nantes, une journée. Voilà. Véridique, vous irez vérifier avec le préfet. Et donc là, ils avaient comme ça, hein. Ils ont stressé. Hein.
Vous parlez de préfet, alors juste un tout petit mot, juste avant de conclure sur la mobilisation contre les méga-bassines à Sainte-Soline le 25 mars dernier, puisque la Confédération paysanne en était co-organisatrice aux côtés de Bassines non-merci et de Soulèvements de la Terre. Le Conseil des ministres va aujourd'hui, je ne sais pas si c'est déjà fait, prononcer ou non la dissolution des Soulèvements de la Terre. De quel œil voyez-vous cette menace? Est-ce qu'on peut dissoudre un mouvement?
Non, c'est ce que je viens de dire. Moi, je sens vraiment un mouvement social énorme, avec toute catégorie de professions, d'âge et de gens qui prennent conscience du problème et qu'il va falloir réveiller tous ces gens au pouvoir là, qui sont en train de nous expliquer que c'est l'économie qui prime. Mais je pense que tout le monde a compris que ça n'allait pas aller très loin cette histoire. Donc il y a vraiment un mouvement de fond là qui arrive et il faut qu'ils en tiennent compte, ils n'ont pas le choix de toute façon.
Et d'ailleurs, ce soir, des rassemblements contre la dissolution des Soulèvements de la Terre ont d'ailleurs lieu partout dans de nombreuses villes en France. À Nantes, c'est à 19h, place Royale. C'est malheureusement la fin de notre entretien. Merci. J'ai reçu ce soir à mon micro Jean-Christophe Richard, coprésident de la Confédération paysanne de Loire-Atlantique. Merci d'avoir répondu à mes questions sur Prune et continuez la lutte.
Oui, c'est ça. Merci.
Chères auditrices, chers auditeurs, si à vous aussi l'avenir de votre planète vous tient à cœur, que ce soit en termes d'écologie, de santé publique, mais dans tous les cas pour un avenir meilleur, documentez-vous, renseignez-vous, assistez à des conférences et des manifestations. Ces sujets nous concernent toutes et tous. Il est question de la sauvegarde des êtres vivants. Pour ma part, je vous conseille de lire une BD édifiante qui remet en question les schémas agricoles imposés par le plan Marshall au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle « Les algues vertes », une enquête réalisée par Inès Leroux et mise en image par Pierre Vanhove. Bonne lecture et surtout, ne lâchez rien.
Merci Perrine et merci encore une fois Jean-Christophe Richard d'être venu dans l'émission de ce soir. Tout de suite, c'est la chronique photographie de Suvan. Je vous invite donc à fermer les yeux et dessiner ou écouter la photo. Vous êtes sur Prune, il est 18h53.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
C'est une photo au format carré. Au milieu, légèrement décalée sur la droite, du bas jusqu'à presque en haut, une porte double battant. Elle est d'un gris mais en bois. En fait, la peinture est tellement vieille et usée qu'à certains endroits, on reconnaît les nœuds ou les lignes dans le bois. Il y a aussi deux charnières supérieures en métal qui sont solidaires de chaque planche de chaque battant. Elles sont rouillées et colorent un peu le bois par l'écoulement en temps de pluie. Au-dessus de la porte, il y a une marquise dont la structure est probablement en bois, mais elle est recouverte de métal. Lui aussi coloré d'un joli marron-orange parce que rouillé, mais juste sur la surface. Faisant le contour de cette marquise, et pour la décorer, des demi-cercles dans le même métal, mais moins rouillé, qui font penser à de la dentelle. Tout autour de la porte, sur la façade, des tôles de zinc, qui restent à certains endroits colorés de leur peinture d'origine, un rouge orangé, comme sur le pont du Golden Gate. Sinon, on y voit le gris du zinc. Les tôles sont probablement de la récup parce qu'elles sont froissées. Plein de plis dus aux coups reçus pour les aplanir lors de leur installation sur les murs. Tous ces plis font comme les lits de rivières qui ont creusé des reliefs que l'on peut voir sur les photos aériennes. Le mois dernier, pour des raisons personnelles, je suis allé sur l'île de La Réunion. J'en ai profité pour prendre quelques jours de vacances, après 3 ans sans en avoir pris, et pour découvrir l'île, que je ne connaissais pas. Entre les cirques, les ravines, tous les pitons, dont celui de la Fournaise, les puits tropicales, la mer parfois déchaînée, et on est constamment spectateur de la phénoménale et fascinante puissance de la nature. Le samedi matin, je suis allé au grand marché de Saint-Pierre, des fruits, des légumes, de la vanille, du rhum, des poulets, etc. Et plein de souvenirs pour les touristes, des habits, des pierres volcaniques ou non, du parfum, du miel, des bijoux, des attrape-rêves, j'en passe et des plus incongrus. Des authentiques souvenirs locaux made in RPC, aka China, mais aussi tout un tas de créateurices, producteuristes locales. Bref, chacun essaie de gagner sa vie à sa manière. Et à un moment, je passe devant un stand avec un gros appareil photo plutôt ancien, genre années 60, entouré de tout un tas de tirages. Forcément, j'ai l'envie d'échanger avec un collègue intrigué par son appareil. C'est un Hasselblad 500 avec viseur poitrine. C'est l'appareil qui a été utilisé par les astronautes sur les premières missions lunaires de la NASA. Et donc, qui fait des photos au format 6-6, donc carré. Et ça fait un petit temps que j'ai envie de faire de la photo carrée, après quelques essais lors du confinement. Mais c'est difficile d'en faire quand dans ton viseur, c'est pas carré. Que ton œil voit en 2/3 ou autre. Donc l'échange est super intéressant. Et puis j'ai envie d'acheter un tirage comme souvenir un peu unique du voyage et pour soutenir les collègues. Mais comment choisir parmi le choix important et fantastique de clichés rendant bien compte de la beauté de la nature de l'île? Je penche pour un arbre de fleurs rouges magnifiques. Mais j'ai bien aussi envie d'avoir le paysage d'un cirque. Ou pourquoi pas une photo de lave en fusion, qui est ouf. Et puis finalement, contre-pied. Une porte plein cadre, donc. J'ai moi-même une série de photos de vieilles portes usées. Mais ici, j'ai pas trop prêté attention à ce qui m'attire l'œil habituellement en milieu urbain, subjugué par la nature. C'est un peu l'occasion de ramener ce que je n'ai pas vu, finalement. Son titre, donc, c'est Case Postale 97-4. Parce que je vous ai pas dit, mais en fait, sur la partie gauche de la façade, à peu près à mi-hauteur dans la photo, on voit une fine ligne horizontale noire dans le mur, comme une incision. Cette petite incision, c'est en fait une discrète ouverture pour y glisser le courrier. Et donc l'auteur de la photo, c'est Jean-Patrice Combe. Et puis depuis, j'ai acheté un argentique qui fait du 6-6 format carré. Mais pas le même que Jean-Patrice, parce que d'occasion, le sien, c'est dans les 1500 à 3000 euros quand même.
Merci Suvan d'avoir fait voyager jusqu'à La Réunion avec ta photo. J'espère que tu as passé des chouettes vacances.
C'était sympa, ouais.
Petit rêve d'aller à La Réunion quand même. Et malheureusement, votre émission Curiosité touche à sa fin. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune. Retrouvez demain le live du jeudi. Tout de suite sur Prune, c'est le Labo des Savoirs qui démarre l'émission scientifique activatrice des synapses. Restez à l'écoute et bonne soirée sur Prune.
Curiosité, du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.